cet atelier, ces stages, c'est une expérimentation. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de vous faire passer mon expérience d'auteur, qui est aussi une expérience de lecteur. Il y a très peu de cadres pour faire ça. On profite, disons, de la lecture de ces auteurs qui m'importent pour regarder de très près, et c'est le sens des textes que je vous ai distribués, quels sont leurs outils d'écriture. J'aime beaucoup cette notion d'outil. Je crois qu'un auteur, c'est quelqu'un qui se promène avec une boîte à outils et que cette boîte à outils, on peut en faire le recensement, au moins rapide et succinct, forcément... non exhaustif, pour comprendre quels sont les outils mobilisés par tel et tel auteur, et pour tenter de se les approprier. Alors j'en viens à Michon directement. C'est évidemment impressionnant de l'évoquer ici, surtout je revendique sa figure comme une figure tutélaire, ce qui n'est pas rien, parce que c'est un auteur impressionnant, à lui tout seul, c'est un des grands aristocrates contemporains du style, mais aussi parce qu'il participe au premier plan, Michon, à l'aventure des éditions Verdier, et que c'est donc un auteur qui compte dans ses murs. Et justement, pour sortir de cette espèce d'admiration un peu figée, je vais commencer par vous signaler que cette leçon sur Michon, c'est une sorte d'écho à l'intérieur de notre atelier, pour ceux qui le suivent depuis le début, mais aussi pour ceux qui arrivent. Particulièrement, un écho à la leçon qui portait sur Un roi sans divertissement, le roman de Giono. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux textes, et je suis content qu'on commence à sentir ensemble des continuités, des circulations à l'intérieur de l'atelier. Il y a un rapport fort entre Giono et Michon qui est d'abord un rapport géographique, hein. C'est tous les deux des provinciaux, comme on dit. C'est pas des Parisiens de souche. Michon utilise l'expression « métèque de l'intérieur ».« Métèque de l'intérieur ». Donc cette situation, elle me touche parce que c'est aussi la mienne, hein. J'écris depuis loin de Paris et... après avoir vécu à Paris longtemps, par choix. Donc c'est bien d'avoir des figures comme eux qui vous tirent vers l'avant, qui vous montrent que c'est possible, qui vous montrent qu'on fait autre chose quand on est loin des centres, qu'on décentre son écriture. Mais plus profondément, entre Un roi sans divertissement et La Grande Beune, il y a des thèmes très forts. L'intrigue de chasse, il y a un rapport très fort à la chasse dans les deux livres, même si chez Michon, c'est plus métaphorique. Il y a un rapport dans la mise en scène d'un passé qui dure. Ça va être un thème important pour nous cette année. Quelle est la présence du passé? Comment est-ce que le passé continue à marquer le présent? Ça, c'est très fort chez Giono, c'est très fort dans Un roi sans divertissement, et c'est très fort dans La Grande Beune. Il y a un rapprochement à faire sur la question de la violence, bien sûr, sur le rapport entre la vitalité et le néant, et le style bref et fulgurant. Michon a avoué lui-même dans ce bouquin d'entretien, qui est vraiment pas mal, « Le roi vient quand il veut ». Sa grande admiration pour Giono et particulièrement pour Le Roi, pour Un roi sans divertissement, qui présente comme un sommet de la littérature mondiale, tout simplement. Il le met vraiment à côté de Dostoïevski, de Shakespeare. Le roi vient quand il veut. La question de la royauté, elle va nous intéresser dans la lecture de La Grande Beune, et elle est importante pour l'œuvre de Michon. C'est un titre qui peut paraître un peu énigmatique, Le roi vient quand il veut, mais normalement, à la fin de ma lecture, vous devriez y voir parfaitement clair. Je parlais du style bref et fulgurant qui rapproche Un roi sans divertissement et La Grande Beune. Justement, voilà, La Grande Beune, vous savez que Balzac était payé à la page. Voilà, Michon n'est pas quelqu'un de riche, mais s'il était au régime Balzac, il faudrait qu'il passe au régime Balzen, quoi. Cacahuète. Un texte bref. 6 parties d'entre 6 et 15 pages. Et ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, à l'intérieur de ces parties, ça fait long, parce que Michon écrit des longues coulées. Il écrit des espèces de paragraphes-phrases, il écrit ce qu'il appelle des blocs de prose. Il préfère souvent ça, d'ailleurs, à roman, nouvelle, vie, puisqu'il a réactivé le genre littéraire des vies, avec ses vies minuscules et puis d'autres vies ensuite. Donc ça se présente comme ça, très matériellement, hein. Faut toujours regarder comment un livre est fait, le feuilleter comme avant de plonger dans son contenu. C'est toujours très agréable de sous-peser un livre, de renifler. Sauf que La Grande Beune, c'était prévu pour être un très gros roman, intitulé L'origine du monde. Rien que ça. Donc évidemment, c'était pas juste pour faire une cosmogonie, c'est une référence à la toile de Courbet qui représente un sexe de femme, qui est une toile ultra connue. On a retrouvé la tête il y a pas très longtemps, c'est exposé ensemble au musée d'Orsay. Voilà, c'était un travail donc sur l'érotisme, ça va nous intéresser. Michon a pas prolongé ce boulot, il en est resté là comme souvent en fait. Les 11, c'est pareil, ça devait être un texte très long. Et puis il essaye d'aller vers le long parfois, et puis il s'arrête en chemin, et c'est peut-être pas plus mal. Mais c'est intéressant cette histoire d'origine du monde, on va voir. Il a gardé que le début. Autre spécificité de La Grande Beune, c'est un de ses rares textes de pure fiction. Michon, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux biographies de gens qui ont existé. Il transforme ça en autre chose que de la biographie, il appelle ça des vies. Son premier bouquin, qui était un tout de suite un carton, ça s'appelait Les Vies Minuscules. J'en lirai un petit bout pour finir. C'est très fort. C'est un manifeste. C'est un type qui entre en littérature par la grande porte. Donc là, on a affaire à une pure fiction. C'est intéressant. Donc, c'est aussi l'une des choses qui rend ce texte particulièrement mystérieux. C'est un texte mystérieux. C'est un texte dont la brièveté est à la fois scintillante, éclairante et puis parfois opaque, cryptée. Donc je voudrais qu'ensemble on tente de lever ce voile, mais en essayant de pas le déchirer. Et pour ce faire, je vous propose trois grandes entrées, hein. Je vous les dirai au fur et à mesure. J'espère qu'avec les trois grandes entrées, au centre, quelque part, entre ces trois entrées, il y aura le texte de Michon, et que du coup vous y verrez plus clair. La première entrée que je vous propose, pour essayer de lever ce voile sans le déchirer, c'est d'essayer de rapprocher la Grande Beune d'un des canons de l'histoire du roman. Absolument capital si on s'intéresse à cette histoire. Et ce canon, c'est le Bildungsroman, ou roman de formation, d'apprentissage. Ça dépend. Le mot allemand Bildung est compliqué à traduire, et voilà, on peut dire à la fois roman de formation, roman d'apprentissage. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est un genre qui est né au XVIIIe siècle en Allemagne. Je passe très vite, on n'est pas là pour faire de l'histoire littéraire, mais vous pouvez approfondir. Et qui, contrairement à ce qu'on pourrait entendre par-ci ou par-là, n'est jamais mort. Il est toujours vivant, le genre du roman de formation. Il y en a plein des romans de formation qui sortent tout le temps, même si c'est plus discrètement, même si ça ne se revendique pas comme tel. Les romans de formation, les romans d'apprentissage, c'est l'histoire et le présent du roman. Le roman, ça sert entre autres, notamment par son ampleur, à faire des parcours. C'est ce qu'on peut appeler la fabrique du continu, le roman, en prenant l'expression de Jean-Paul Gou. Donc quand on fabrique du continu, on peut se permettre de montrer un long parcours. Et du coup, il faut bien que ce parcours évolue, et la question de l'apprentissage, la question de la formation, remplit parfaitement cet espace laissé disponible par le roman. Avant de vous en dire plus sur le roman de formation et sur le caractère du roman de formation qu'on peut prêter à la Grande Beune, je vais commencer par vulgairement résumer le texte, pour qu'on y voit un petit peu plus clair, et puis pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui n'y ont pas eu accès. Et ensuite, à partir de ces éléments, on y verra plus clair. En 1961, un jeune homme débarque dans un village perdu de Dordogne. Le village est nommé Castelnau. Le jeune homme ne sera jamais nommé. Il reste le narrateur, et il arrive à Castelnau pour son premier poste d'instituteur. Il a 20 ans. Au pied de ce village, de Castelnau, coule une rivière, la Grande Beune, qui donne son titre au bouquin. Donc la Grande Beune, c'est pas quelqu'un, ou pas directement, mais on va voir. C'est peut-être un personnage, quand même, cette Grande Beune. Ce jeune homme, donc qui est le narrateur, prend pension chez Hélène, établissement appelé chez Hélène, un bar-hôtel, où on rencontre tout de suite une galerie de personnages formidables. La dite Hélène, qui est une espèce de matrone contemplative. Son fils, Jean le Pêcheur, dont le surnom vient d'un espèce de talent à demi-magique de charmeur de poissons. Pas quelqu'un qui pêche, c'est quelqu'un qui charme les poissons et qui fait des pêches miraculeuses. Et puis il y a autour de cette mère et de son fils tout un cœur de buveurs qui vont rester indifférenciés, mais qui vont accompagner le narrateur. Le nouveau monde où cet instituteur arrive va se polariser autour du personnage d'Yvonne, qui est à la fois une simple buraliste et une espèce de reine qui règne sur les fantasmes du narrateur. Fantasme et pas plus, puisque leur relation va rester du domaine du pur désir, chacun ayant une vie amoureuse de son côté, en mode mineur pour le narrateur, une espèce d'historiette, avec, comme il dit lui-même, sa petite copine, Mado, la seule qui est appelée par un diminutif qui raccourcit, et en mode majeur et même brûlant pour Yvonne, avec Jean-Jean, un paysan énigmatique. C'est l'autre personnage appelé par un surnom, mais c'est un surnom qui étend et qui redouble. À ses heures perdues, le narrateur visite les grottes ornées de la région, on est en Dordogne, hein, et il trouve dans les représentations animales qui sont sur les murs un écho de ce qu'on pourrait appeler sa propre vitalité désirante. Pour lui, les bêtes, c'est son désir, c'est lui, c'est le galop qu'il a à l'intérieur de lui. Et l'ensemble de cette aventure court sur une petite année. On suit le cycle des saisons, on suit bien l'automne, on suit un peu l'hiver, et puis le printemps et l'été, ça va très vite. Il y a une espèce d'accélération, le temps n'est plus tout à fait distingué, mais il nous dit à un moment, la période où j'étais arrivé à Castelnau revient, on fait une petite année avec eux. Bon, j'en viens à mon histoire de roman de formation, pour creuser un peu ce résumé bébête. Si on se reporte au grand roman du genre, que vous n'êtes pas forcément obligé de lire, hein, c'est pas forcément des bouquins qui ont tous bien vieilli, Wilhelm Meister de Goethe, par exemple, qui est un bouquin dur à lire aujourd'hui, pour nous, Wilhelm Meister. Autre grand roman de formation là, que je vous conseille tous de lire, Le Rouge et le Noir, Stendhal, si c'est pas encore fait, L'éducation sentimentale de Flaubert, Le Père Goriot de Balzac, tout ça c'est à la fois des briques dans la bibliothèque, on a l'impression que ça a toujours été là, que si on les enlève, la bibliothèque va tomber, mais en même temps c'est vraiment fort, hein, ça rayonne toujours. Donc si on se reporte à ces grands romans, on peut faire des parallèles frappants avec le texte de Michon. Il y en a certains qui sont là, on va en dire des bouts. Hein. Les rapprochements, c'est quoi? Il est à chaque fois question, dans Michon comme dans les textes que j'évoquais, d'un héros jeune qui fait un voyage grâce auquel il se forme, comme l'indique le nom du genre. Il se forme à quel niveau? Métier, notre narrateur, là, il arrive pour faire l'instit pour la première fois. Amour, la belle Yvonne, Mado, quel est le rapport entre le désir et le plaisir? Une espèce de philosophie des relations humaines, et plus généralement, de l'existence. Quel est le sens de la vie? Donc Michon colle à ces critères, et en même temps, il se décolle. Il s'éloigne de cette tradition à mesure même qu'il s'y inscrit. C'est particulièrement sensible sur le ressort narratif du voyage que j'évoquais pour commencer. Donc il y a souvent un voyage au départ d'un roman de formation. Le jeune homme ou la jeune fille, ça arrive que ce soit des jeunes filles, même si les jeunes filles sont très peu représentées encore au 19e, au moment où le genre émerge de façon vraiment abondante. Le jeune homme, la jeune personne, disons, quitte son lieu de départ et perd ses repères pour en retrouver d'autres. Le canon du genre au niveau du voyage, c'est le Père Goriot de Balzac, ou Rastignac, qui est un jeune ambitieux de province, comme on dit. Il vient d'Angoulême, monte, comme on dit, à Paris, en conquérant, vraiment. Sa formule, c'est « à nous deux, maintenant ». C'est le refrain de Rastignac. Rastignac, c'est un personnage que Balzac a créé pour qu'il serine ce truc-là. « À nous deux, maintenant ». Donc c'est une espèce de bretteur avec la ville de Paris. Le défi est lancé à une ville, pas à des gens, à une ville. Et cette ville, c'est le sommet de la pyramide dans l'univers balzacien. Donc le voyage typique, c'est ça. C'est aller là où c'est dur, là où on a une chance de s'élever. Flaubert avait déjà mis à distance ce canon avec l'éducation sentimentale, d'une façon assez drôle. Ça s'ouvre sur le retour du héros, Frédéric Moreau, chez lui, en province, comme on dit, sur un bateau. Le 15 septembre 1840, vers 6h du matin, la ville de Montereau, près de partir, fumait à gros tourbillon devant le quai Saint-Bernard. Des gens arrivaient hors d'haleine, point virgule. Des barriques, des câbles, des corbeilles de linge gênaient la circulation, point virgule. Les matelots ne répondaient à personne, point virgule. On se heurtait, point virgule. Les colis montaient entre les deux tambours, et le tapage s'absorbait dans le bruissement de la vapeur qui, s'échappant par des plaques de tôle, enveloppait toute une nuée blanchâtre, tandis que la cloche, à l'avant, tintait sans discontinuer. Enfin, le navire partit, point virgule, et les deux berges, peuplées de magasins, de chantiers et d'usines, filèrent comme deux larges rubans que l'on déroule. Un jeune homme de 18 ans, à longs cheveux et qui tenait un album sous son bras, restait auprès du gouvernail, immobile. À travers le brouillard, il contemplait des clochers, des édifices dont il ne savait pas les noms. Puis il embrassa, dans un dernier coup d'œil, l'île Saint-Louis, la cité Notre-Dame, point virgule, et bientôt, Paris disparaissant, il poussa un grand soupir. Bon, là, Flaubert est en train de s'amuser. Il fait une description très dynamique, bourrée de point virgule. On va voir si c'est intéressant, parce que ça, Michon pique. Outil, point virgule. Et le type est content de quitter Paris. C'est l'inverse de Rastignac. Il fait... Oh, et il retourne à Nogent-sur-Seine, par la route la plus longue. Voilà, c'est ça les derniers mots de cette introduction. Donc voilà, Flaubert, il vient repérer le coup chez Balzac, déjà. Monter à Paris, c'est le truc du roman de formation typique. Ben moi, je vais faire l'inverse. Mon type, il rentre chez maman, en bateau, et il est bien content de quitter Paris. D'ailleurs, il comprend pas où il est, vous avez vu les clochers dont il connaissait pas le nom. Il décode pas l'univers parisien. Bon, chez Michon, qui est un grand, grand, grand lecteur de Flaubert, qui est un grand lecteur tout court, mais qui est irrigué de Flaubert, on a l'impression qu'il a des perfusions flaubertiennes. Chez Michon, c'est pire, la scène d'introduction. C'est pas du tout monter à Paris. C'est arrivé en bus sous la pluie, je cite, au fin fond de la Dordogne, c'est-à-dire nulle part, en Valaquie. C'est la deuxième page. En Valaquie, j'ai un petit détour. Les Valaques, c'était le nom donné aux barbares de l'actuelle Roumanie par les Romains. C'est pire donc, plus grave que la province, où rentre Frédéric Moreau chez Flaubert, la barbarie. Ça commence comme ça, la Grande Beume. On arrive en barbarie. Donc évidemment, moi je me demande le jour où j'écrirai sur une arrivée à la grâce, ce que je vais pouvoir faire d'encore plus grave, quoi. Il va falloir vraiment descendre dans les cercles de l'enfer dont il est déjà question là. Bon, c'est du coup, il y a un côté, c'est un début très noir, hein, très très poignant, très il la mauvaise, quoi, ce type qui arrive à Castelnau, et en même temps c'est une blague. C'est aussi une blague de Michon. Ah, vous avez vu, Flaubert? Ah, ben moi, je fais pire. À tel point qu'on pourrait se demander si c'est pas un contre-roman de formation, La Grande Beume. Il y aurait rien à apprendre de bon dans la vie. Quand on lit le début, on a l'impression que c'est ça que la suite va nous apporter. Et il y a un certain nombre d'indices qui vont dans ce sens. Quelques lignes plus tard, on lit dans la tête du narrateur, enfin, sous sa plume, « Ce passé me parut mon avenir, ces pêcheurs louches des passeurs qui m'embarquaient sur le méchant rafio de la vie adulte. » Vous avez vu le rafio qui revient? C'était une péniche... un bateau à vapeur, machin, dans Flaubert. Là, c'est un méchant rafio. Donc l'avenir a l'air bien sombre, il ressemble au passé. Et page 15, trois pages plus loin, le narrateur semble regretter l'enfance quand il rencontre ses élèves pour la première fois. Il a cette phrase. « Oui, cela m'émouvait de voir les petits élèves. C'est que je n'en étais pas si loin avec mes 20 ans. » Pas si loin d'eux, ces petits enfants. « Surtout, je m'en éloignais, je n'y étais plus. » Donc on a l'impression qu'on lit un roman sur... un roman nostalgique. Il n'y a rien de bon à attendre de la formation. Je ne vais pas me former. C'était mieux avant. Voilà. On a l'impression que c'est ça, la leçon de la grande Beune au début. D'autant que derrière ces lignes sur l'enfance, là, le narrateur nous transmet un rapport à l'enseignement qu'il découvre, là, pour son premier poste, qui n'est pas exactement celui de la vocation, si vous voulez. Alors que, justement, la notion de vocation, c'est une notion très importante dans le roman de formation classique. C'est ça que travaille Stendhal dans Rouge et Noir au départ, puisque son personnage doit devenir curé, et puis qu'en fait, il va faire autre chose. Donc il est appelé par quelque chose d'encore plus fort que la vocation. Mais visiblement, le narrateur de Michon, non. L'enseignement, ça, il le fait parce qu'il faut bouffer, mais ça le passionne pas. Bon, en fait, évidemment, Michon est beaucoup plus rusé qu'un simple type qui ferait un contre-pied à la tradition. C'est pas juste un contre-roman de formation. C'est pas juste un contre-pied un peu massif, un peu vulgaire. C'est pas qu'il n'y a pas de leçon à tirer de la vie. C'est que cette leçon est brève. Et on rejoint la brièveté du texte. Ça donne sens à la brièveté du texte. C'est pas un texte nihiliste, c'est un texte qui nous dit, au fond, la leçon est dense. Et c'est pour ça, sans doute aussi, non seulement que le texte est court, mais que l'histoire couverte est courte. À peine un an, je vous disais tout à l'heure. Alors que la plupart des romans de formation s'étalent sur plus longtemps. L'éducation sentimentale, c'est même... Ça court sur une vingtaine d'années. Enfin, il y a une accélération à la fin, mais... C'est pas qu'il n'y a rien à apprendre, c'est que, comme l'écrit Michon, page 68, dans l'édition Folio, à laquelle je me rapporte... C'est pas qu'il n'y a rien à apprendre, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre, écrit Michon, page 68. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Et c'est le petit Bernard, le fils d'Yvonne, qui est l'occasion de cette leçon. C'est pas la leçon qu'il reçoit, c'est la leçon qu'il donne à son instituteur. Puisqu'il est le fils de la femme adorée et inaccessible, et que lui a accès à ce savoir sensuel auquel le narrateur n'aura jamais accès. Cette leçon, elle est simple. Il n'y a que la pulsion amoureuse qui vaille, celle qui relie les enfants à leurs parents et les amants entre eux. Si on devait bêtement tirer le suc de la grande Beune, ce serait peut-être ça. En ce sens, donc, c'est un roman de formation presque platonicien. Il faudra que j'en parle avec Dominique, j'irai le chatouiller avec ça. Puisque chez Platon, la connaissance ne se découvre pas. C'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose qui se retrouve. On sait déjà tout. La géométrie et la métaphysique, même les enfants ont accès aux idées platoniciennes. C'est une des démonstrations de Platon les plus marrantes, où il parle à un type qui est ignare en mathématiques et il lui fait réinventer un théorème simplement par déduction. Et il lui dit, tu vois, la connaissance, c'est pas un truc qui se crée, c'est un truc qui se retrouve. La connaissance, on l'a tous déjà. Il faut juste avoir la méthode pour la retrouver, et c'est donc de la pub que Platon fait pour lui-même, puisque c'est la méthode pour retrouver la connaissance, c'est la philosophie. Mais chez Michon, la grosse différence, c'est que ce savoir infus, qui est présent chez Bernard, et que Bernard apprend chez le petit Bernard, et que Bernard apprend au narrateur, c'est pas un savoir intellectuel, c'est pas un savoir idéal, notionnel, conceptuel, c'est un savoir pulsionnel. C'est la pulsion amoureuse. Ça, Bernard, il le sait, le narrateur, il est en train de l'apprendre, il est en train de le découvrir. Et justement, c'est la tension entre des pulsions qui sont écrasantes, une retenue des pulsions qui est toujours victorieuse, ce que Michon appelle la contention, c'est ça qui donne sa vraie force à l'œuvre. C'est une espèce de torrent contenu. Pulsion, retenue. Là, vous aurez peut-être reconnu un couple de notions qui est définitoire d'un autre genre de roman, plus le roman de formation, mais le roman courtois. Le roman courtois. Et c'est ça, ma deuxième piste, pour vous proposer de lire La Grande Beune, c'est de la lire comme un roman courtois. C'est peut-être davantage, dans le projet de Michon, un roman courtois qu'un roman de formation. Le roman de formation, je crois qu'il en donne quelques codes comme ça pour étayer son travail. Mais plus profondément, La Grande Beune, c'est un roman courtois. Un roman qui travaille sur le rapport entre désir et plaisir. C'est vraiment la grande tension qui est à l'œuvre dans ce roman. En même temps, ça peut vous paraître un peu étrange de parler de roman courtois, puisque le terme semble anachronique. C'est un roman ancré dans l'époque médiévale, alors que le roman a été publié en 96. Mais déjà, les anachronismes, ça intéresse Michon. J'y reviendrai. C'est quelqu'un qui travaille sur, comme je le suggérais en introduction, une présence écrasante du passé. Et après tout, un roman courtois en 1996, c'est ça. Une espèce de fantôme littéraire. Et de toute façon, la chronologie littéraire, c'est pas celle de l'histoire. La chronologie littéraire, elle est pleine de télescopage, elle est pleine d'anticipation, elle est pleine de fantômes. Il y a déjà 1984 dans l'œuvre de Hobbes, de même que Olivier Cadiot, qu'on va étudier ensemble, phénomène inverse, est complètement infus de Shakespeare au moment où il fait émerger un personnage du XXIe siècle, la Fairy Queen, qui est une espèce de performeuse, de sportive, c'est un personnage de Shakespeare. Donc, ces télescopages, c'est ça plus le sens de l'histoire littéraire qu'une chronologie continue. Tout ça pour vous dire qu'un roman courtois, publié en 1996, c'est pas impossible. Et de toute façon, je veux pas vous dire que La Grande Bonne, c'est un roman médiéval. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on y trouve un art d'aimer qui est très particulier, et que cet art d'aimer, l'époque à laquelle il se formule le plus clairement, c'est l'époque médiévale. Mais cet art d'aimer n'appartient pas en propre à l'époque médiévale. C'est pas une propriété de l'époque médiévale. Alors c'est quoi cet art d'aimer? Cet art d'aimer courtois. Là, mon papa m'a beaucoup aidé à avancer, sans s'en rendre compte. Il m'a dit, ouais, je l'ai lu là, hein. Il a acheté tous les bouquins. Il vit en Champagne, donc il ne sera pas là, mais il a acheté tous les bouquins. Et il m'a dit, c'est un peu bizarre La Grande Bonne, il conclut pas. Il conclut pas. Bon, alors en plus, la conclusion du livre n'est pas une conclusion, c'est vrai, enfin, on y reviendra. Il conclut pas. Ça m'a beaucoup fait rire, et puis je me suis dit, mais il faut que je leur dise ça, moi, pour en lisant, en écrivant. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la relation entre le narrateur et Yvonne ne devient jamais charnelle. C'est mignon, quand même. Dans la bouche de mon père, donc, il ne conclut pas, ça traduit un sentiment d'inachèvement. Comme si l'histoire était mal ficelée. Il avait une espèce de... Il se dit, c'est dommage, il y a du gâchis, là. Il y a un bon matériau, mais il va pas au bout. Bon. Et il a raison, mon papa, comme tous les papas. Pourquoi? Parce que le canon érotique aujourd'hui, c'est conclure. Toutes les histoires érotiques sont tendues vers conclure. C'est le plaisir, le canon, à l'horizon d'une relation érotique dans la fiction aujourd'hui, l'horizon normal, c'est le plaisir. Or, l'érotique médiévale, c'est là qu'elle est géniale, parce qu'elle est complètement anticonformiste pour nous, elle invente un art d'aimer ahurissant, qui est antinaturel, mais au sens propre, antinaturel, quoi. Il s'éloigne complètement de la question de la fécondation, qui est la base de la sexualité. Et ce qui est surpuissant, c'est qu'il repose sur l'absence de conclusion, ou plutôt sur sa présence uniquement à l'horizon. Ça, c'est leur grand truc, quoi. Le roman médiéval, Courtois, invente la notion d'horizon dans le plaisir. Le plaisir, c'est pas qu'il est absent, c'est qu'il est à l'horizon. Et vous savez que l'horizon, c'est le truc qu'on n'atteint jamais, mais avec lequel on se berne en disant, je vais aller toujours plus loin, parce que je vais bien finir par y arriver. Bon, évidemment, ce qui les intéresse à l'époque médiévale, là-dedans, c'est de rapprocher l'amour humain de l'amour de Dieu. Quand on enlève le plaisir, on garde la pureté. C'est très pratique comme opération. Et comme ça va durer infiniment, ça va nous rapprocher de l'infini. Le chevalier, canonique, éprouve pour sa dame un désir qui ne se transforme en rien d'autre qu'en toujours plus de désir. Ça fait beaucoup penser à ce vers mystérieux de René Char. Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir. Fallait la trouver celle-là. C'est dans Feuillet d'hypnose. C'est une série de poèmes qu'il a écrit quand il était résistant. C'est des poèmes très courts parce qu'il avait autre chose à faire. Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir. C'est à la fois très beau, puis en même temps, ça sent vraiment l'embrouille. De toute façon, il y a un truc d'embrouille dans le roman courtois. Le poème est l'amour réalisé du désir demeuré désir. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la fin, le désir demeuré désir. Et pour le héros courtois, comme pour le narrateur de Michon, c'est pas le poème qu'on pourrait définir comme ça, c'est la vie. La vie, c'est l'amour réalisé du désir demeuré désir. C'est une tension vers qui retombe jamais. Et là où c'est une invention bien trouvée, c'est que du coup, ça garde l'existence sur un plateau, sur une intensité constante. Il n'y a pas de fin au désir, donc on est tout le temps à bloc. Et le narrateur de Michon est tout le temps à bloc. Et du coup, là, on comprend mieux les rapports entre les personnages principaux du roman, si on prend cette entrée du roman courtois. Je vous lis, page 71, cette manière très puissante, condensée qu'a le narrateur de se définir lui-même. « Le fond d'irritation, de contention douloureuse de mon caractère s'y comblait. » Le fond d'irritation, de contention douloureuse de mon caractère. Donc qu'est-ce qui met au fond de son caractère, au centre de son style d'existence? C'est la contention. Voilà un mot qu'on associe plus volontiers à du matériel médical qu'à l'érotique. Et l'instrument médical, les bas de contention, par exemple, c'est intéressant pour comprendre ce que c'est que l'amour courtois. Et comment lui, là, il expose. C'est comme un barrage. Voilà, c'est comme un barrage. Au cœur de sa vie, il y a un barrage. Le fond de sa vie, c'est un barrage. Il y a un désir énorme, un flot énorme, contenu. Il est contenu. Et ça, il n'y a pas meilleure manière de définir ce que c'est qu'un héros pour toi. Vous pouvez enlever l'armure, le cheval, la lance, tout ça c'est du bluff, ou tout ça c'est de l'époque, du circonstanciel. Le héros pour toi, c'est quoi? C'est un homme contention. C'est ça, un héros pour toi. C'est rien d'autre. Si vous enlevez la contention, vous pouvez mettre le cheval, le château, tout. Il n'y a pas de héros pour toi. Bon, et j'ai commencé par le héros pour toi, parce que du coup, quand Michon nous dit « Yvonne, c'était une reine », et il le dit plusieurs fois, mais oui, c'est une reine. C'est une reine au sens propre. Lui, c'est le héros courtois. Elle, c'est la reine. Alors, dans l'intrigue courtoise, c'est marrant hein, d'ailleurs. Il le dit plusieurs fois. Il y a une fois qui est vraiment drôle. C'est un des seuls moments d'humour réel du bouquin. Où il dit, bon voilà, il imagine Yvonne qui sort du magasin de jouets où elle a acheté un vélo pour son petit garçon. Et il dit, cette scène, je l'ai en horreur. Je peux pas voir Yvonne avec un vélo sur l'épaule. C'est comme une reine avec une pelle sur l'épaule. Donc là, la reine est drôle, quoi. Mais c'est quand même un moment où il nous dit, c'est la reine. Et je crois qu'il faut vraiment le prendre au sens courtois. C'est pas juste un superlatif, c'est pas pour dire « Oh, qu'est-ce qu'elle était belle !» C'est la formulation d'un pouvoir hiérarchique. Dans l'érotique courtoise, lambda, je dirais, le héros est amoureux d'une dame. Et là, il s'agit pas non plus d'un terme de politesse, il s'agit pas seulement d'une désignation aristocratique. Étymologiquement, la dame, c'est la domina. Le mot dame, ça vient de domina. C'est celle qui domine. C'est la femme du dominus, le maître du domaine, dans la société romaine. C'est ça, une dame. C'est pas une... Là, c'est pareil, hein, pour enlever les bijoux, la jolie robe, le diadème. Non. Une dame, c'est quelqu'un qui domine. Or, Michon pousse le bouchon. C'est pas seulement un personnage de dame, c'est la dame des dames. C'est la reine. C'est la dame des dames. C'est celle qui est au sommet de la hiérarchie des dames. Et pourtant, c'est une buraliste. Donc, évidemment, ça peut sembler ironique. Et Michon pratiquant l'ironie, on peut se dire... Qu'est-ce que c'est que cette buraliste qu'il appelle reine? Est-ce qu'il n'est pas en train de se foutre d'elle, quoi? Même éperdument séduisante, une buraliste qu'on appelle reine, ça fait drôle. Mais là, il faut faire un détour par le thème de la royauté dans l'ensemble de l'œuvre de Michon. Donc vous voyez, hein, ça concerne plusieurs ouvrages, à commencer par celui-là, puis il y en a d'autres. Il a écrit un bouquin, un peu du même ordre, un bouquin théorique qui s'appelle « Corps du roi » au début des années 2000. Et il y a aussi « Le roi du bois », qui est un de ses textes les plus réussis sur un peintre, un ancien peintre de la Renaissance. Et ce thème de la royauté, il désigne quelque chose qui n'a rien d'ironique chez Michon. La royauté, c'est quoi? C'est un état, chez Michon, c'est un état supérieur de vie, qui peut toucher n'importe qui. Sur le modèle de la révélation religieuse, vous savez, de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui reçoit la visite de Dieu, qui était un impie, puis qui tombe dans le chemin, et puis il a vu Dieu. Il a pris la foudre. Paul. Et à partir de là, ça devient Paul, quoi. C'est le type, c'est l'activiste numéro un du christianisme. C'est le type qui se met à parcourir toute la Méditerranée pour créer des églises, pour dire Jésus, Jésus, c'est ça le nouveau message. Cet état de royauté, ça peut saisir n'importe qui dans l'œuvre de Michon, et ça le place immédiatement en position de domination, de dominus, de domina. Même brève, sur tous les autres. Il y a un des personnages dans Les Vies Minuscules qui a 2 secondes de royauté avant de mourir. Il voit, c'est vraiment le modèle de Paul. Il voit, il entend Dieu et puis il meurt. Il est sublime, il a 2 secondes de sublime et il meurt. Cet état de royauté, c'est ce qui est arrivé à Michon. C'est ce qu'il a vécu. C'est devenu le roi. C'est un type issu d'une famille très modeste, de province, comme on dit, de Valaquie, et qui est devenu un immense styliste, touché par cette espèce de reine qu'est la littérature, comme lui il l'entend en tout cas. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse indéfiniment à ces vies minuscules dont on a autant parlé, minuscules, parce que c'est celle d'inconnus, de ratés, souvent les deux. Mais c'est précisément là que l'émergence de la grâce est la plus spectaculaire. C'est chez les humbles, chez les ratés, chez les alcoolos.
Il y a du Genêt là-dedans.
Ouais. C'est un grand lecteur de Genêt, Michon. Chez Genêt, il y a le même axe. De toute façon, Michon est un héritier de tout ça, j'y viendrai un peu. C'est vraiment un auteur du XXe siècle. C'est quelqu'un qui se pose la question du sacré là où il y a du mal. L'humanité, pour beaucoup d'auteurs du XXe siècle, c'est le mal. Il vient de se prendre 2 guerres mondiales, il y a 6 millions de juifs qui ont disparu, et après, il faut faire de la littérature. Donc, ils se disent, au départ, il y a le mal. C'est pour ça qu'il y a l'Histus Dostoïevski à cette époque, qui est vraiment un grand auteur du mal. Il y a le mal au départ, et pourtant, il faut qu'il y ait encore du sacré. Sinon, ça sert à rien. Ils essaient de sauver le mal par le sacré. Mais voilà, plein de solutions différentes. Et Genêt, c'est pour ça qu'il marche aussi bien. Parce qu'il a une œuvre de taré. Au 19e ou au 21e siècle, ça serait resté un auteur mineur. Mais au 20e, c'est génial. C'est parfait. C'est ça. Parce qu'il pose cette question. Et c'est quoi le miracle d'Yvonne? C'est quoi son pouvoir? Le pouvoir qu'elle exerce sur le narrateur. Bah, c'est pas seulement celui d'éveiller son désir, mais c'est de le maintenir. Et ce qui est drôle, c'est que c'est à l'image même, dans mon expérience en tout cas, mais dans l'expérience de pas mal d'autres, des effets provoqués par la substance sur laquelle repose leur seule relation réelle, et qui est le tabac. C'est la vendeuse de clopes. Or, le tabac, il entretient ce que Michon appelle l'irritation. C'est un désir qui s'arrête jamais, qui n'est jamais vraiment comblé. Vous parlerez avec plein de fumeurs qui vous diront « Oh, cette cigarette, elle était formidable parce qu'elle est venue, faire cesser le désir. » Mais en fait, elle n'est pas venue le faire cesser, elle est venue le relancer. C'est une des raisons pour lesquelles le tabac, ça marche si bien, puisque c'est un truc courtois. Avec le tabac, le désir s'arrête jamais. Bon, enfin, ça, c'est l'expérience de pas mal de fumeurs, mais de pas tous les fumeurs non plus. Mais en tout cas, c'est la mienne, et je sais qu'elle n'est pas isolée. Et dernière chose, dans cette espèce de monde qui est celui de la Grande Beune, donc je vous ai parlé du chevalier, je vous ai parlé de la reine, mais du coup, le lieu, Castelnau, ça se met à sonner différemment, le nom du village où se situe l'action. Castelnau, c'est... Castel, c'est château. Ça, c'est pas mystérieux. Comme il en faut pour les reines dans les romans courtois, donc il y va aussi, hein, dans le petit décorum. Mais c'est un château neuf. Castelnau, un château neuf, donc prêt pour un roman courtois, en 1996. Voilà, c'est très cohérent tout ça. Et en effet, Michon apporte du nom au schéma courtois traditionnel, du nouveau, du neuf. Il ne se contente pas de reconduire cette espèce de rapport de domination entre un chevalier et sa dame, qui prolonge le désir du chevalier à l'infini vers Dieu. Il rajoute plein de choses. D'abord, il complexifie le schéma courtois sur deux plans, au moins, il redouble le dispositif de domination et, c'est un coup de force pratiquement, il intègre le plaisir dans ce dispositif. Il n'y a pas juste du désir. Le narrateur, c'est une espèce de boule désirante qui n'arrête jamais de désirer. Mais on n'en reste pas là. La domina possède elle-même un dominus. Yvonne a une relation de domination avec Jean-Jean, qui est un paysan à la fois tranquille et sadique. Alors Jean-Jean, surnom Rusto, ou supériorité royale. Moi, dans Jean-Jean, j'entends Jean deux fois. Donc Jean II. Le roi Jean II. Le paysan qui est un roi. Voir le MV dans Giono, Monsieur V, où ce V peut aussi être lu comme un 5. Monsieur 5. Et Giono s'intéresse aussi à cette histoire de généalogie royale chez les humbles. Un roi sans divertissement, ça commence par Frédéric à la Syrie sur la route d'Avers. Il succède à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père, à tous les Frédéric. Et évidemment, c'est, dans l'histoire, lui, c'est Frédéric II. Vous voyez, comme le type que l'histoire a retenu comme un vrai souverain. Donc, dans le roman courtois, toute dame a un seigneur. Ça, c'est pas une nouveauté, de donner un seigneur à une dame. Un amant légitime, qui n'est pas le chevalier, qui peut être le roi ou un seigneur suzerain. Mais ici, la soumission est spectaculairement mise en scène par Michon parce qu'elle est érotique et parce qu'elle est violente. Elle n'est pas juste érotique, elle est violente. Et je dirais même que Michon, c'est bien plus fort que 50 nuances de grès. Vous pouvez le revendre. Puisqu'Yvonne est carrément fouettée par Jean-Jean. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, Michon nous le dit clairement. Ce qu'il nous dit moins clairement, c'est si cette soumission est consentie ou subie. Le texte de la Grande Beune ne tranche pas. Contrairement à Michon, dans le bouquin d'entretien dont je vous parle, qui dit « Oui, 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 elle est consentante !» dans un des entretiens. Bon, moi, ça m'intéresse moins de savoir si elle est consentante ou pas que de rester dans l'indétermination. C'est beaucoup plus mystérieux et intriguant. Et puis ça permet de ne pas juger les personnages, de rester au-delà de la morale. Mais quoi qu'il en soit, cette relation-là, telle qu'elle est mise en scène par Michon, elle relève d'une tradition littéraire. C'est pas lui qui invente des personnages qui se font mal en amour. Une tradition sadienne. C'est que Sade, le grand auteur qui fait surgir la violence, la cruauté dans l'amour. Et Sade arrive à Michon par Bataille. Par Georges Bataille. Comme pour beaucoup d'auteurs de la génération de Michon, c'est Bataille. Ouais, le sacrifice, ou carrément les récits érotiques atroces, pornographiques, quoi. Comme dans l'histoire de l'œil. Et chez tous ces auteurs, venant de Sade par Bataille, l'amour physique, c'est toujours à la fois ce qui sacre et ce qui avilit. Donc on retrouve ce problème, qui est l'un des grands problèmes existentiels des auteurs du XXe. Qu'est-ce qu'on fait du mal et comment on garde une place pour le sacré quand le mal a été aussi présent? Donc ça se traduit dans des récits épique, dans des récits politiques, mais ça se traduit aussi dans l'érotique des auteurs du XXe siècle. Et c'est pas l'aspect qui me semble le plus vivant dans l'œuvre de Michon, pour être honnête. Il y a presque une espèce de sadisme obligé. Ça fait bien de montrer qu'on a lu Sade, qu'on a compris, quand on est un auteur de la génération de Michon. C'est même un peu lourdeau, je trouve, dans le paquet de Marlborough. Je trouve que ça va un peu loin. Que Yvonne vende au narrateur un truc blanc et rouge. Blanc comme la pureté, rouge comme la souillure. Vous voyez ? C'est le personnage à la fois le plus avili et le plus sacré de l'histoire. Et cette espèce d'objet synthétise ça. Et je trouve que c'est un peu lourdingue. Un peu lourdingue aussi le sort réservé au pauvre petit Bernard, le fils d'Yvonne. Que le narrateur, j'utilise son verbe, martyrise à l'école, puisque c'est l'instit. Faute de fouetter sa mère. Vous voyez, l'espèce de transfert, ça sent à la fois son Sade un peu mal digéré et son Freud un peu refourgué, quoi. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi, le côté 50 nuances degrés de la grande donnée. Ce qui m'intéresse plus dans les apports au schéma courtois que propose Michon, c'est ce qui nourrissait en fait son projet romanesque de départ, l'origine du monde, la question de l'origine, quoi. Quelle est l'origine du désir ? Quelle est l'origine anthropologique du désir ? Et Michon répond en donnant à la pulsion amoureuse une source archaïque, préhistorique, qui était évidemment absente des textes médiévaux courtois, puisqu'à l'époque, l'archéologie, on n'en a pas encore l'idée. Et si on avait dit aux dames des récits courtois qu'elles descendaient du singe, je ne pense pas qu'elles auraient accordé foi à cette proposition. Et c'est là que l'implantation de l'action en Dordogne fait sens. Je pense que c'est pour ça que Michon place son action en Dordogne, parce que c'est truffé de grottes ornées. De grottes où il y a des peintures. Dans l'expérience de son narrateur, il y a une continuité immédiate entre la force du désir et celle des bêtes qui sont représentées, et celle des hommes qui représentèrent ces bêtes. Et là, donc, Michon crée... Il y a une vraie anthropologie du désir dans ce bouquin, au sens où le désir, c'est à la fois ce qui fait tout le temps tendre vers l'avant, quand on le maintient, et c'est ce qui ramène toujours à l'origine archaïque. Le désir vous tire dans les deux sens. C'est ça qui nous donne à lire de l'anthropologie du désir. Et entre ces deux pôles, l'humain, c'est une sorte de tunnel pour le désir. Ça passe à travers lui, comme diraient les psychanalystes. Désirer, c'est quoi, dans la grande bune ? C'est à la fois devenir et redevenir un troupeau de rennes avant la dernière déglaciation au paléolithique. C'est à la fois devenir et redevenir une rivière, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois passé et à venir. Il y a toujours un amont et un aval en même temps dans la rivière. Et je pense que c'est pour ça que ce roman s'appelle La Grande Beune, et non pas Yvonne la Reine ou Jean-Jean le Grand. C'est pas des personnages du schéma courtois sadique qui sont sacrés par le titre. C'est un cours d'eau. Dans le titre... Donc, premier abord qu'on a du texte, et dans les derniers mots, le dernier contact qu'on a avec le texte, et enfin, nous dormions tous, la grande beune continuait. C'est là-dessus que le texte s'achève, ou peut-être dure pour toujours. La grande beune n'en finira plus de couler, de continuer. Donc je crois que la grande beune, ça parle à la fois de ce cours d'eau qui est central dans la géographie du lieu, mais que c'est aussi le modèle de l'anthropologie du désir que nous propose Michon. C'est le désir est quelque chose qui nous transforme en rivière, où on est à la fois tout le temps tendu vers l'avant et tout le temps relié à la pulsion la plus archaïque qui soit. On est tout le temps entre amont et aval. C'est vraiment le sens que j'ai envie de donner à ce baptême que Michon donne à son texte. Et il y a deux personnages, à mon sens, plus intéressants en fait que le narrateur, et, enfin disons encore plus intéressants que le narrateur, Yvonne, Jean-Jean. Tout le petit clan sadien, là. Il y a deux personnages qui me semblent incarner cette vision de l'humain, cette anthropologie-là du désir, qui est une anthropologie de l'humain comme canal de flux, plutôt que comme sublime ordure, quoi. Il y a un peu ce truc de la sublime ordure qui hante toute la littérature, surtout de la deuxième moitié du XXe siècle, et dont Michon est encore l'héritier. Le personnage, c'est deux gens, d'ailleurs, hein, comme l'apôtre. Mais Jean, c'est aussi le nom le plus banal qui soit. C'est le nom minuscule, Jean. Il y a le saint local, Jean-Gabriel Perboire, et Jean le Pêcheur, le fils d'Hélène. Jean-Gabriel Perboire, c'est un personnage réel, c'est le seul de la Grande Beune, quoique Michon torde sa vie, on va voir, qui est en effet né en Dordogne, qui est mort persécuté en Chine, comme ce que dit... Mais, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il est devenu saint au moment de la publication de la Grande Beune. Il était encore bien heureux au moment où Michon écrit. En 96, hop, il est sanctifié par Rome. Alors, Je sais pas si c'est parce que le pape a eu Michon. Ah, je dis donc, ouais. Jean-Gabriel Perboire. Donc il est devenu saint l'année où Michon publie. Je trouve ça drôle. D'autant que le texte était prêt depuis 1988. Et puis Michon, qui est une espèce de feignasse aussi, il faut bien le dire, a tardé pour publier tout ça. Paf, ça tombe la même année que la sanctification du type. Donc c'est un type qui a existé, mais Michon modifie le supplice final. Ça a l'air sadien comme ça, mais on va voir, c'est plus intéressant qu'un truc sadien. Alors que l'histoire parle d'une mort par strangulation, c'est comme ça qu'est mort Jean-Gabriel Perboire. Il est mort étranglé par d'horribles Chinois. La Grande Beune évoque une figure en fait qui est très proche de Saint Sébastien. Michon nous dit qu'il est mort percé de flèches. Bon, c'est un des saints qui m'intéresse, un des martyrs qui m'intéresse le plus dans cette espèce de corpus tellement ahurissant que les chrétiens ont développé. Pourquoi ? Parce que, au-delà de la souffrance, au-delà du truc sadique des flèches, moi j'ai envie de lire un corps traversant. D'un seul coup, le corps est ouvert. D'un seul coup, il y a des tunnels dans le corps. C'est pas juste les flèches qui nous intéressent, c'est les trous qu'elles font. Les flèches, c'est des rayons. Si vous regardez les représentations iconographiques très riches de Saint-Sébastien, c'est pratiquement la même chose que l'auréole. C'est des rayons qui passent par le corps, c'est du flux. Dieu est un flux. Il passe par le corps des gens qui se sont fait percer par des flèches. C'est pas que ça me donne envie de faire la même chose, mais je trouve ça plus intéressant que... Et puis ça fait rire qu'il ait pas laissé mort étranglé, quoi, qu'il ait choisi... Ah, non, ce que je vais mettre à la place, c'est plutôt Saint-Sébastien. Bon, alors là, c'est encore une espèce de truc où Michon a un pied dans le sadisme et un pied dans autre chose qui est, je crois, Michon. Qui est le plus Michon chez Michon. C'est ce truc, l'homme canal pour du flux. Et là où il est vraiment 100% michonien, c'est avec Jean le Pêcheur. Jean le Pêcheur, c'est une autre figuration de cet état d'homme canal qui se passe de douleur. La seule petite douleur, c'est vaguement celle qui fait au poisson. Et encore, on apprend que souvent il les rejette. Et c'est ce qui en fait peut-être le personnage le plus original du livre, vraiment. Qu'est-ce qu'il fait, Jean le Pêcheur ? Il vit sur un flux, tranquillement. Il prélève sur le flux. Il passe son temps sur la Beune, grande ou petite, et il pêche, et il prélève la puissance vitale de la Beune. Il vit sur l'héroïne réelle du roman. Cette Beune sur laquelle il prélève son poisson, cette force vitale avec une virtuosité qui est à la fois magique et très tranquille. C'est vraiment un personnage tranquille. Et il me semble que ce modèle fluvial dont je vous parle depuis un moment, là, il s'applique au-delà de certains personnages, Jean-Gabriel Perboire, Jean le Pêcheur, le narrateur, au mode de composition du texte lui-même, ce modèle fluvial-là. Je crois que la Grande Beune, c'est écrit de façon fluviale. Au-delà de la construction linéaire que j'exposais dans mon résumé un peu bêta du début, la Grande Beune, c'est un texte qui se souvient et qui anticipe sans cesse, qui est tout le temps entre amont et aval, entre ce que je vais appeler, j'essaye de proposer ça, de la rémanence et de l'imminence. On parle souvent de roman fleuve. Je crois que La Grande Beune, c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus. Comme son nom l'indique, c'est un roman rivière. Dernière manière pour Michon de capter une tradition pour s'en moquer et pour faire quelque chose de personnel. C'est pas un roman fleuve, c'est petit, c'est bref. C'est un roman rivière. Mais c'est pas moins fort. On va voir. Un roman rivière, donc, qui est tout le temps entre amont et aval. Hein, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette manière qu'a le texte de... comme une rivière entre amont et aval, tout le temps véhiculée du passé et de l'avenir. Les deux moments importants du temps sont tout le temps véhiculés ensemble. Je vais vous donner des exemples, hein, parce que ça reste un peu abstrait pour l'instant. Donc je vais vous parler de la rémanence d'abord, de ce pouvoir de rémanence qu'a le texte. La rémanence, c'est ce phénomène qu'on observe, qu'on vit, quand des images qu'on a vues intensément restent présentes, même quand on a fermé les yeux. La rémanence, c'est ça. Vous fixez un truc... vous sciez pas, et quand vous fermez les yeux, là je vois encore l'étagère par exemple, la forme de l'étagère. Ça c'est la rémanence. Et je crois que le texte fonctionne comme ça, je crois que c'est l'amont du texte, c'est ces rémanences, c'est cette présence obsédante du passé dans tous les textes de Michon. La rémanence, quand vous fermez les yeux et que vous voyez toujours l'étagère, c'est une vue que vous avez plus, c'est du passé, mais c'est encore là. Vous voyez ? Comme un fantôme. La rémanence c'est ça. Donc Michon est complètement obsédé par cette présence-là du passé, par cette manière-là dont le passé marque notre présent, comme s'il était encore présent. Donc vous l'avez compris, hein, c'est d'abord dans son rapport à la littérature que cette présence du passé l'obsède, cette rémanence de la tradition littéraire. Et lui-même le revendique d'ailleurs, hein, dans ce bouquin dont je vous parle depuis tout à l'heure, page 206. « Je demande à la littérature que j'écris d'être brève, mais je tiens à ce que cette brièveté soit informée par tout ce qui a été pensé et dit depuis qu'il y a des hommes. » C'est quelqu'un qui lit tout, Michon. Il lit pas juste de la littérature. Il lit de l'anthropologie, il lit de la biologie, il lit de l'électricité, il lit tout. C'est un type qui dévore l'écrit. Et tout ce qui a été écrit à ce jour est présent dans sa littérature. Donc on l'a vu avec les références littéraires, on l'a vu avec l'inscription du désir dans le fond préhistorique. Il dit « désirer, c'est être encore paléolithique ». Puis il y a plein d'autres époques qui sont convoquées, donc on a vu l'époque médiévale avec le roman courtois, mais il y a aussi une allusion répétée aux fabliaux dans le texte, qui sont ces petites formes médiévales, pas forcément comiques d'ailleurs, qui mettent souvent en scène des animaux. Les mythologies grecques et égyptiennes circulent dans le texte, ici ou là. Il est question des grandes tragédies, il est question d'Anubis, le culte d'Anubis. Toute la première scène, donc, comme je vous l'évoquais, c'est une réécriture de l'Enfer de Dante, comme les premières pages d'Un roi sans divertissement. Donc voilà, tout ça, c'est présent, ce passé-là est présent dans le texte de Michon. Et évidemment, c'est pas le seul à fonctionner par référence. Moi, je crois même que la littérature ne peut pas procéder autrement. Écrire, c'est toujours se souvenir, même si on ne s'en rend pas compte. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas du neuf. Par contre, là où Michon est très fort et très spécifique, c'est qu'il est très rare chez d'autres auteurs que cette présence du passé soit rendue aussi fulgurante à l'échelle de la phrase même. À l'intérieur d'une phrase, vous voyez surgir du passé dans toute sa vigueur. Regardons ensemble le portrait d'Hélène au début du texte. Page 12-14. C'est en bas de la page 12 que ça commence. « Hélène était vieille et massive comme la Sibylle de Cume, comme elle réfléchit et de même attifée de belles guenilles, coiffée d'un fichu roulé. Son gros bras à la manche relevée essuyait la table devant moi. Ses gestes humbles rayonnaient d'orgueil, d'une joie silencieuse. Je me demandais quelle aventure l'avait mise à la tête de cette taverne rouge, sur quoi régnait au-dessus d'elle un renard. Je lui demandais à dîner. Elle s'excusa modestement de ses fourneaux éteints, de son grand âge, et me servit à profusion de ces choses froides qui, dans les récits, tiennent au corps de pèlerins et de gendarmes avant que dans leur corps ne passe le fil d'une épée, d'un guet tout noir et plein de lames. Du vin, là-dessus, dans un gros verre, pour affronter mieux les lames. Je mangeais ces charcutailles de haute époque. À la table voisine, les propos se faisaient rares, les têtes se rapprochaient, alourdies par le sommeil ou le souvenir de bêtes descendues en plein bond, mourant. Ces hommes étaient jeunes, leur sommeil, leur chasse, étaient vieux, comme les fabliaux. Les brigands valaques, à la fin, coiffèrent leurs bonnets, ils furent debout et, dans des cirés d'un noir d'encre, dont les plis cassés brillaient, s'éloignèrent bravement vers leur besogne obscure de passeurs, de dormeurs. L'un d'eux avait par-dessus cette côte nocturne étoilée un visage fin, aigu, qu'il tourna vers moi. Il me fit un sourire complice ou apitoyé dans lequel jaillirent des dents blanches. On entendit démarrer des mobilettes. La nuit, par la porte restée ouverte, était trouble, immobile. La pluie galopait ailleurs, il y avait du brouillard maintenant. « C'est Jean le pêcheur, » dit Hélène, avec un petit mouvement de la tête vers ce brouillard où détalaient des moteurs grêles. Son geste était si vague qu'elle aurait pu aussi bien nommer le brouillard. Elle souriait, ses rides dans ce sourire s'ordonnaient à merveille. Elle ferma sa porte, tripota des interrupteurs, tout s'éteignit. Me levant, je dormais déjà, j'étais n'importe où, dans des pays où les renards passent dans les rêves, et au cœur du brouillard, des poissons qu'on ne voit pas sautent hors de l'eau. Ils retombent avec un bruit mat au fin fond de la Dordogne, c'est-à-dire nulle part, en Valaquie. Il plut pendant tout cet temps. Bon, il y a un moment suspendu de description, et bam, un mois qui passe en une phrase. Ça, c'est très michonien, d'abord. Et puis vous avez, je crois, ce moment à l'intérieur de l'extrait qui résume tout l'extrait, qui est « Me levant, je dormais déjà ». Vous voyez, la rémanence des états. Il n'y a pas un moment de présent. C'est différents moments au même moment. Et tout le texte fonctionne comme ça, en fait. Ça, c'est le résumé du texte. De cet extrait qu'on vient de lire, en tout cas. Où il y a à la fois de la Sibylle de Cume, donc cette espèce d'oracle italienne délirante qui hante les textes antiques, et de la mobilette, où il y a à la fois du fablio et du ciré, où il y a des brigands valaques et des interrupteurs. Vous voyez ? Il y a différentes époques au même moment. Et le texte se crée ses propres fantômes à lui aussi. Il n'a même pas besoin de faire appel à des références passées, les fabliaux, la Sibylle de Cume, etc. Il se crée des formules qui deviennent obsessionnelles. Des petits blocs de mots qui reviennent sans cesse, comme des obsessions. Le texte se crée son propre passé. Il invente une expression et puis il y fait référence à mesure qu'il avance. Ces expressions, elles sont nombreuses. Le rouge sang de bœuf de la salle de bar, le renard, les sequins, aux joues d'Yvonne, le miel de la blessure d'Yvonne, Voilà. Parler de sequin, parler de miel, le rouge, sang de bœuf, tout ça, c'est des formules qui n'arrêtent pas de revenir dans le texte et qui sont comme des propres fantômes que le texte se crée. C'est-à-dire, il ne propose pas une nouvelle expression pour décrire cette salle de bar, par exemple. Il reprend son expression rouge, sang de bœuf. Et ça devient comme un petit passé que le texte s'invente à lui-même, comme une obsession. Et du coup, le présent le plus trivial peut être accepté lorsqu'il laisse la place à ses fantômes. Par exemple, un petit moment que j'aime beaucoup, quand Jean-Jean amène le narrateur et Mado pour visiter la grotte, il passe par son hangar de paysan où il y a un tracteur John Deere. Pourquoi est-ce que Michon nous donne la marque du tracteur ? Ben, je peux vous dire, si ça avait été un tracteur classe ou Peugeot, il ne l'aurait pas fait. Mais John Deere, il le fait parce que John Deere, D-E-E-R-E, on retrouve le deer anglais, D-E-E-R, qui est le cerf, et qui sert de symbole à la marque de tracteur. Donc d'un coup, sur un truc de 1961, il y a un animal paléolithique sur le tracteur. Ce n'est pas des chevaux qui font avancer ce tracteur, c'est des cerfs. Il y a un troupeau de cerfs dans le tracteur. Voilà comment il arrive à intégrer du présent. Le travail de rémanence, à l'échelle de la phrase, il se fait aussi au niveau de la syntaxe, qui est volontiers archaïsant chez Michon. Prenons un exemple, page 34, on en verra un autre dans le passage qu'on va lire de près tout à l'heure. Page 34, c'est le moment où Jean-Jean arrive au tabac pour parler à l'oreille d'Yvonne en passant devant tout le monde, et vraisemblablement pour lui proposer de venir passer un moment plus ou moins doux à la fin de la journée. Et Yvonne réagit de façon... elle est choquée quoi, par cette arrivée, elle est à la fois, on a l'impression qu'elle est à la fois furieuse et furieusement désirante d'un seul coup. Et Michon nous dit « Elle s'était empourprée, le menton plus blanc, hésitait s'il continuerait de sourire. » Ça, c'est une tournure qu'on n'utilise plus. « Hésitait si. » « Hésitait s'il continuerait de sourire. » Bon, le texte est truffé de trucs comme ça. Et ça, c'est des moments où, paf, d'un seul coup, il y a la Rochefoucauld qui surgit dans la langue de Michon. Il y a du 17e, explose dans le 20e. Ça, c'est une tournure à la... Oui, à la Rochefoucauld ou à la... Diderot, il pourrait encore parler comme ça. Rousseau, il pourrait encore dire des choses comme ça. Mais Victor Hugo, non. Donc la rémanence, elle est là aussi. Elle est dans la syntaxe. Et pourtant, cette syntaxe, elle s'accommode de 1961, de la mention du carbone 14, une espèce de mention technique, carbone 14 en italique, au moment où il est question des visites des grottes. Elle s'accommode même d'une référence au blues, et en anglais, s'il vous plaît, il y a un mot d'anglais dans cette langue de la Rochefoucauld, honey, le miel, qui veut dire aussi la chérie, mais qui est le miel de la blessure, dans le même temps. Donc cette langue, elle s'accommode aussi du présent. Elle est hantée par le passé, elle s'accommode du présent, et elle se révèle tout autant polarisée par le passé que par ce qui est sur le point de se passer, par ce qui est sur le point de surgir, par l'avenir immédiat. Donc c'est à la fois... un texte de la rémanence et un texte de l'imminence. C'est ça que j'appelle l'imminence. Il y a une espèce d'obsession dans le texte, à la fois pour la présence du passé et pour quelque chose de miraculeux qui est sur le point d'advenir. L'imminence. Ça marche sur l'imminence, tout autant que sur la rémanence. La rémanence était mon amont, l'imminence est mon aval de ce texte Rivière. Michon, c'est pas simplement un auteur pétri par le passé, c'est un auteur aux aguets, comme Giono dans Un roi sans divertissement, comme ces pêcheurs dont il est question, comme les chasseurs paléolithiques. Il est dans une posture de chasse. Il attend la vivacité qui va bondir. Et ce qu'il guette, c'est pas du gibier, véritablement. C'est un événement particulier qui est peut-être l'événement par excellence. Il faudrait en parler avec un historien sur la notion d'événement. C'est la fulgurance de la grâce qu'il guette. Je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure avec la question de la royauté. Ce que l'auteur Michon guette, c'est la fulgurance de la grâce. C'est le moment où Dieu... où la littérature, où le désir va frapper. Ce moment, il est toujours susceptible d'advenir, mais il n'est jamais certain. C'est pour ça qu'il faut être aux aguets. C'est la grande différence entre l'agriculteur et le chasseur, entre l'éleveur et le chasseur. L'éleveur, il a son carré. Évidemment, les résultats ne sont pas certains. Il ne sait pas combien de veaux vont mourir, mais il a un cheptel. Le chasseur, il ne sait pas quand ça va bondir. La grâce chez Michon, ça fonctionne comme une bête sauvage. C'est imminent par définition. Et c'est ce qui fait que Michon s'intéresse autant à une sorte d'état de disponibilité des gens ou des choses. Ce qui l'intéresse, c'est que ces personnages soient disponibles, que ces choses soient disponibles pour que la grâce les frappe. Donc on l'a vu pour l'amant, désirant. Il est décrit les dimanches, hein, il dit « J'allais me promener aux endroits où je savais qu'Yvonne passait. » Mais peut-être qu'elle passait, c'est pas sûr. Peut-être que la grâce va venir, mais c'est pas sûr. Il nous dit « Parfois elle ne venait pas. » espèce de truc définitif où la grâce se tait. Elle vient pas forcément, elle est pas gentille, la grâce. Donc c'est l'état de l'amant désirant, j'y reviens pas trop, mais c'est aussi l'état assez incompréhensible, si on conçoit pas les choses comme ça en termes d'imminence, de la paroi spectaculaire dans la grotte que Jean-Jean fait visiter derrière chez lui. On va regarder page 61-62. Il y a ce passage très étrange où Jean-Jean, qui est une espèce donc de type à moitié sympathique et à moitié antipathique, hein, c'est un type tranquille, on va voir, on va travailler son portrait ensemble. Donc il les accueille chez lui comme ça parce qu'il y a une grotte derrière, que ça les intéresse de voir la grotte, et puis ils avancent dans son espèce de grotte privée, miniature là, et il y a un moment où il allume les lumières, il n'y a rien. Il y a une voûte magnifique, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de dessin. Et Mado, qui est un peu la cruche de service que le narrateur moque gentiment, elle dit, mais il se fout de nous. Alors que le narrateur, lui, il est stupéfait, il est comblé. Pourquoi ? Parce que c'est le moment de l'imminence, cette paroi. L'imminence de quoi ? Je lis page 61 en bas. C'était Lascaux au moment où les célibataires accroupis épousent leurs pensées, donc les chasseurs-cueilleurs qui viennent peindre, conçoivent, brisent les bâtons d'ocre et touillent le charbon de bois dans une flaque, se taisent. Le chapeau à andouiller posé à côté d'eux. Point virgule. Et peut-être qu'alors ils le prennent et le font tourner dans leurs mains, le chapeau, que doucement ils le regardent et pensent à leur petite enfance, pensent fortement qu'ils auront à mourir, qu'ils aiment les femmes et manger, bluffés avec les andouillés sur la tête, mais que des dieux cléments et insatiables, en cet instant, les regardent, respirent par leur bouche, ont leur joie, et vont tout à l'heure les jeter avec cette joie contre les murs, debout, incertains de leur propre volonté, mais sûrs de leurs mains. Traçant de grandes vaches rouges, plus blessées que des femmes, comme elles bondissantes et joyeuses, traquées. Qu'est-ce qui intéresse Michon et son narrateur, derrière il y a l'auteur, avec la paroi vide, c'est que Lascaux va arriver sur cette paroi. C'est le moment où Lascaux n'est pas encore peint, mais où ça va se faire. C'est juste avant la foudre de la grâce. C'est avant que les peintes soient jetées contre les murs, juste avant. Et évidemment, quand on sait que ce type qui écrit n'est pas peintre, mais écrivain, dans cette paroi blanche, je résiste pas à l'idée de voir une feuille. La page juste avant la littérature. Et si vous plongez dans les vies minuscules, vous trouvez cette scène plusieurs années avant Brandebeune. Amouriou, mon enfer changea. C'est à celui-ci que je me suis tenu désormais. Chaque matin, je posais la page sur mon bureau et attendais en vain que la remplît une faveur divine. J'entrais à l'hôtel de Dieu. Les instruments du rituel étaient en place, la machine à écrire à main gauche et les feuillets à main droite. L'hiver abstrait par la fenêtre nommait les choses plus sûrement que ne l'eût fait l'été profus. Des mésanges voltaient qui n'attendaient que d'être dites. Des cieux variaient dont la variation se pourrait réduire à deux phrases. Allons, le monde ne serait pas hostile, resserti dans le vitrail d'un chapitre. Des livres m'entouraient, bienveillants et recueillis, qui allaient intercéder en ma faveur. La grâce ne saurait assurément résister à un si bon vouloir. Je la préparais par tant de macérations. N'étais-je pas pauvre, méprisable, détruisant ma santé en excitant de tous ordres ? Tant de prières, ne lisais-je pas tout ce qui se peut lire ? Tant de postures, n'avais-je pas l'air d'un écrivain, son imperceptible uniforme ? Tant d'imitations picaresques de la vie des grands auteurs, qu'elle ne pourrait tarder à venir. Elle ne vint pas. Bon là, la littérature lui fait le même coup qu'Yvonne certains dimanches. Elle vient pas. Sauf que là, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, c'est l'imminence. C'est comme le désir dans le roman courtois. C'est pas si important que le plaisir arrive dans le roman courtois. Et chez Michon, ce qui compte, c'est plus le moment où on ne sait pas si la grâce va venir, mais où on l'attend, que le moment où elle vient vraiment. Voilà, évidemment, là, Michon parle dans ce texte presque de lui, disons. C'est presque une photocopie de son livre. Il me semble que la scène de la Grande Bonne, c'est là, cette fois, un écho, c'est de la rémanence des vies minuscules dans la Grande Bonne. Transformé. C'est les pages que Michon n'arrivait pas à remplir qui deviennent une page où Michon écrit pour nous dire qu'est-ce que c'est beau une page blanche. Cette sorte de paradoxe. Donc ce roman Rivière, par ses allers-retours incessants, il réalise ce que Olivier Cadiot, dans un texte qu'on lira bientôt, appelle, avec une formule tout aussi fulgurante que celle de Michon, mais assez différente, « explosion du passé dans le présent ». Explosion du passé dans le présent. Ça, c'est une phrase qui revient de façon récurrente chez Cadiot et qu'on gardera ensemble. Cette question de la présence du passé, donc, je vous l'ai dit, hein, ça va nous préoccuper pour le texte de Michon, pour celui de Cadiot, pour celui de Céline Ménard, pour le conte bizarre de Quignard qui nous attend la prochaine fois. Le nom sur le bout de la langue.